14h ici à Paris, il est 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi. Nemo en Peace.
Dans une petite minute, le journal de Karine Bellicha, suivi d'une vingtaine de minutes consacrées à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Nous sommes en Équateur, pays qui depuis 2 mois n'a pas connu un jour sans coupure d'électricité. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État, des faits qui remontent à la fin de l'année 2022. Le journal des Outre-mer également, avec Alex Léveillé. Alex, nous sommes en Martinique pour parler de déchetterie fermée et du budget de la collectivité territoriale.
Effectivement, tout cela sera développé dans quelques instants.
A tout à l'heure Alex, et puis direction Port-au-Prince en ligne avec le directeur de l'hôpital universitaire de la paix, mais tout de suite le journal. Au Liban, l'armée régulière, Karine, se dit prête à se déployer dans le sud.
Oui, après le retrait de l'armée israélienne et des combattants du Hezbollah de la zone dans les 60 jours, c'est ce que prévoit le cessez-le-feu. Il est entré en vigueur cette nuit, un accord obtenu après des mois d'efforts diplomatiques des États-Unis et de la France. Un nouveau chapitre s'ouvre au Liban, a dit le Premier ministre qui espère désormais aller de l'avant et parvenir à l'élection du chef de l'État, un poste vacant depuis 2 ans en raison de la crise politique. Mais pour le moment, la population libanaise est traumatisée par la guerre et c'est la prudence et l'inquiétude qui dominent face au cessez-le-feu, comme l'explique Gabriel Blondel, journaliste à L'Orient le Jour. Il était l'invité d'RFI Matin. On l'écoute.
C'est compliqué de se dire que tout, après un tel déferlement de violence, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, ce matin, on s'est réveillé encore avec le son des drones au-dessus de Beyrouth. Donc on se dit que, enfin, en tout cas, ce n'est pas perceptible vraiment cette fin des hostilités jusqu'à présent. Les gens sont aussi un petit peu toujours sous le choc de ce qui s'est passé hier, dans la journée d'hier. Des frappes intenses, comme on ne l'avait sans doute jamais vu à Beyrouth depuis le 23 septembre et le début de l'escalade. Donc, ce qui a provoqué forcément des énormes mouvements de panique avec des gens qui ont pris leur voiture pour essayer de quitter la ville en catastrophe. Donc ça a créé forcément beaucoup de panique.
Gabriel Blondel, journaliste à L'Orient le Jour.
Au total, 900 000 Libanais ont dû quitter leur domicile à cause des bombardements israéliens.
Et de l'autre côté de la frontière, dans le nord d'Israël, 60 000 habitants ont eux aussi fui la zone en raison des tirs du Hezbollah. Et après le cessez-le-feu, la population est aussi très sceptique. Certains accusent même le gouvernement israélien d'avoir capitulé. Reportage auprès de déplacés du nord de Sami Bourhelifa à Jérusalem.
Cela fait 1 an et 2 mois que je vis à l'hôtel, annonce d'emblée Sarah Beaton. L'hôtel, c'est bien pour 1 semaine, mais pas pour aussi longtemps, poursuit cette grand-mère originaire de Kiryat Shmona, à la lisière du Liban. Cessez le feu ou pas, elle restera à Jérusalem.
J'aimerais bien retourner dans le nord, mais je ne m'y sentirais pas en sécurité si le Hezbollah est toujours près de la frontière. On ne peut pas leur faire confiance. Il est possible qu'ils s'éloignent un peu de la frontière, mais l'armée israélienne doit rester au Liban pour garantir qu'ils ne s'approchent plus de nous.
Pourtant, l'accord de cessez-le-feu prévoit bien le retrait de l'armée israélienne du territoire libanais. Raymond Fedida, la belle-sœur de Sarah, est sceptique.
Je ne sais pas, ni le date.
Elle ne sait pas quoi penser de ce cessez-le-feu.
Il faut éradiquer le Hezbollah et ensuite on pourra rentrer chez nous. La situation est très difficile. Je suis ici avec mon mari. J'ai un fils qui est aussi déplacé à Jérusalem et 2 autres fils qui sont ailleurs dans le pays. On n'arrive même plus à se voir. On est éparpillés à travers tout le territoire.
Israël n'a pas encore autorisé officiellement ses 60 000 déplacés à revenir chez eux. Benjamin Netanyahou avait pourtant fait de ce retour des déplacés un objectif de sa guerre contre le Liban. Sami Bourhelifa à Jérusalem, RFI.
Et quelles conséquences aura ce cessez-le-feu à Gaza? Finalement, le Hezbollah libanais n'a pas attendu la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne pour accepter la trêve. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé hier soir, c'est l'opportunité désormais d'intensifier la pression sur le Hamas. Le mouvement islamiste, par la voix d'un de ses dirigeants, se dit prêt à un cessez-le-feu avec Israël.
aux États-Unis, 8h05 à Washington. L'équipe qui va entourer Donald Trump à la Maison-Blanche se dessine petit à petit.
Une équipe très à droite, radicale, prête à mettre en œuvre le programme du président républicain, notamment en matière d'immigration. Le milliardaire avait promis pendant sa campagne la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux jamais vue dans le pays. Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
Certaines villes et États démocrates qualifiés de sanctuaires ont promis de se mettre en travers du chemin de Donald Trump, lui qui réfléchit déjà en retour à les priver de ressources fédérales.
Oui, la semaine dernière à Los Angeles, le conseil municipal a adopté un décret interdisant que la ville utilise ses ressources, la police entre autres, pour appliquer une quelconque loi sur l'immigration. Ce qu'elle ne fait déjà pas, mais l'objectif c'était d'envoyer un message, le même que celui de plusieurs gouverneurs démocrates, « nous ne coopérerons pas ». Réponse de Tom Homan, que Donald Trump va charger de l'expulsion des migrants illégaux, « nous couperons les aides fédérales qu'ils reçoivent », ce que le président élu avait déjà essayé de faire lors de son premier mandat. Nous ne sommes pas le moins du monde intimidés par ces menaces qui visent à saper nos valeurs, a rétorqué le maire de Chicago. Même son de cloche du côté d'autres villes comme Boston ou Denver, dont le maire s'est dit prêt à aller en prison pour contrer les promesses d'expulsion de Donald Trump. Des actions en justice sont en tout cas probables, mais pas sûr que New York suive le mouvement. Après que des États républicains aient commencé à y envoyer par bus des migrants, le maire avait attaqué certaines politiques de sa ville, appelant à une plus grande coopération entre la police locale et les autorités fédérales chargées de l'immigration.
Christophe Paget, du service international d'RFI. Le rapport fait près de 900 pages et il est accablant pour Jair Bolsonaro. Selon la police brésilienne, l'ancien président d'extrême droite a non seulement activement participé à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir, mais il avait aussi connaissance d'un plan d'assassinat de son successeur, Lula. Selon les enquêteurs, le projet aurait échoué car les principaux commandants de l'armée brésilienne auraient refusé d'y participer.
Et cette affaire, on en reparle dans 10 minutes. Nous serons à Rio de Janeiro avec Sarah Cozzolino. À La Haye, le procureur de la Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt contre le chef de la junte birmane.
Pour crimes contre l'humanité, ils auraient été commis il y a déjà 7 ans contre les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée. Beaucoup ont dû fuir au Bangladesh. La demande de mandat d'arrêt est désormais sur le bureau des juges qui devront prendre une décision dans les prochains mois. À La Haye, les explications de Stéphanie Maupas.
Le procureur demande un mandat d'arrêt pour déportation et persécution des crimes contre l'humanité qui auraient été commis par les services de l'armée et de la police sous les ordres du général Ming Aung Hlaing. Les crimes visés par le procureur auraient été commis en 2017. À l'époque, la Tamado, les forces armées de Birmanie, auraient réprimé les Rohingyas faisant 10 000 morts et forçant 700 000 personnes à fuir vers le Bangladesh. Au Bangladesh, Karim Khan s'est rendu cette semaine dans les camps de réfugiés Rohingyas à Cox's Bazar. Il a indiqué que l'enquête se poursuit. D'autres mandats d'arrêt suivront, a-t-il dit dans une vidéo en ligne. Au cours des dernières années, les enquêteurs ont récolté de nombreuses preuves, dont les confessions d'insiders, des témoins repentis ou qui connaissent le pouvoir de l'intérieur. Les chances d'arrestation sont infimes. Le général birman voyage peu et quand il prend l'avion, c'est pour se rendre en Chine ou en Russie. Pour compliquer les choses, la Birmanie n'a pas ratifié le traité de la CPI et si les juges confirment les demandes de mandat d'arrêt, plusieurs États pourraient donc considérer qu'ils n'ont pas l'obligation de l'arrêter. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI.
Un mot de football pour refermer ce journal et la suite. Ce soir, des matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions. Belgrade sera opposé à Stuttgart. Aston Villa à la Juventus Turin et Liverpool au Real Madrid. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est encore compliqué la tâche en s'inclinant 1-0 sur la pelouse du Bayern Munich. Sa qualification est encore plus incertaine. Brest a mis fin à sa succession de victoires. L'équipe bretonne s'est logiquement inclinée face à Barcelone. 3-0. Voilà Nemo pour le journal.
Merci Karine Bellicha, vous revenez tout à l'heure.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Direction Haïti, justement, où la capitale Port-au-Prince connaît une nouvelle flambée de violence. La prise du quartier de Solino il y a 6 semaines et une incursion dans la zone jusqu'ici préservée de piétonville par les gangs armés ont poussé les Nations Unies et les chancelleries occidentales à réduire leur présence sur place. Ces mêmes groupes qui ont profité du changement de Premier ministre pour intensifier leurs opérations criminelles, pas moins de 40 000 déplacés en 10 jours selon l'Organisation internationale pour les migrations. Témoignage du docteur Jean-Philippe Lebourg, directeur de l'hôpital universitaire de la paix. À l'heure où le système de santé haïtien est sous pression maximale, Vincent Souriau l'a interrogé sur les répercussions de cette violence accrue.
La première conséquence, c'est l'afflux de patients parce que l'hôpital n'est pas extensible. On a un hôpital de 210 lits. Il y avait des soins qui étaient prévus pour ces 210 lits. Mais aujourd'hui, on se retrouve justement avec une occupation de lits de manière constante qui frise les 105 à 110%. C'est un petit peu compliqué. Les lits sont toujours occupés, particulièrement à la maternité, dans les services chirurgicaux et aux urgences. La pédiatrie est aussi toujours occupée. Vu le stress qu'il y a, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des ACV et qui ont des problèmes de diabète. Ce qui veut dire que, mis à part la traumato, il y a d'autres problèmes qui sont tout aussi urgents et qui viennent nous trouver.
Quand vous parlez de traumatologie, ça veut dire que vous accueillez aussi beaucoup de blessés par balle?
Des blessés par balle, des accidents de la voie publique, parce que aussi les gens se déplacent beaucoup. On se déplace beaucoup à moto et on se déplace n'importe comment, très vite pour fuir et la violence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. C'était déjà un problème avant à cause des codes de la route qui ne sont pas respectés. Mais aujourd'hui, c'est encore plus criant. Sans compter effectivement les plaies par balle, les plaies par arme blanche. Et ça, c'est, on va dire que c'est plus ou moins monnaie courante. Si je prends les chiffres des 10 derniers jours, ça fait aux alentours de 89 plaies par balle qui arrivent à l'hôpital. Sans compter les plaies par arme blanche et les cas de traumato, d'accidents de la voie publique.
Donc vous êtes en surcapacité, l'hôpital est plein. Est-ce que vous avez assez de moyens et assez de personnel pour travailler?
Il y avait déjà des problèmes de ressources et de personnel déjà dans le système. Et avec le phénomène Biden et puis le départ de personnes qualifiées, on a perdu à peu près 27% de notre personnel. Ce qui veut dire que la situation s'est encore détériorée. Ce qui veut dire que le travail qui doit être fait peut-être par deux personnes est fait par une seule personne. Donc ça veut dire que le personnel déjà travaille, ils ont des heures à rallonge et ils ont aussi une charge de travail qui est beaucoup plus élevé.
Vous êtes situé à Delma 33, dans le centre de Port-au-Prince. Vous êtes le seul hôpital qui fonctionne dans cette zone. Si jamais vous êtes dans l'obligation d'envoyer des patients ailleurs, des pathologies complexes qui ont besoin de soins très précis, par exemple, comment vous faites?
Pour l'instant, il n'y a pas cette possibilité. Dans le secteur public, et on n'a pas cette possibilité. Il y a cette possibilité peut-être, et si quelqu'un vient, et si la personne veut avoir les premiers soins, ensuite aller dans le privé, et la personne peut le faire. Et même là encore, c'est un petit peu difficile. Les cas de neurochirurgie, on les transfère en général à Bernard Mulze. Et c'est une structure qui n'est pas trop loin de nous, mais qui a dû fermer ou bien suspendre momentanément ses activités à cause de la violence dans leur zone. Ce qui veut dire que si quelqu'un reçoit une balle et au niveau de la tête et a besoin de neurochirurgie, ce n'est pas une mince affaire, c'est aussi.
On sait que MSF, Médecins Sans Frontières, a suspendu ses opérations il y a une semaine. MSF ne prend plus de patients dans aucun de ses 5 centres d'urgence. Est-ce que la présence de ces organisations internationales soulageait votre travail d'une manière ou d'une autre et qu'est-ce que ça implique pour vous?
Bon, absolument, parce que dans l'offre de soins, et MSF prenait une quantité de patients justement et qui prenaient des fois les premiers soins chez eux. Dans certains cas, ils nous référaient les cas et qui n'étaient pas dans leurs critères, mais au moins les gens recevaient les soins et à MSF. Mais aujourd'hui, si MSF ferme, déjà que j'avais un problème, la quantité que je recevais était déjà énorme. Donc maintenant, ajouter à ce que MSF ne pourra pas voir, en termes de tableau, c'est un tableau extrêmement inquiétant et alarmant. On attend, mais on sait que ça va être extrêmement difficile de tenir dans ces conditions.
Il y a aussi tout le volet du suivi médical. Jean-Philippe Lherbourg, après les opérations, il y a la rééducation, l'accompagnement, le traitement. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les longues maladies. Est-ce que vous avez encore de quoi suivre en termes de matériel et de médicaments?
Pour l'instant, l'hôpital avait un plan de contingence qui avait été mis en place par l'hôpital en partenariat avec le ministère de la Santé publique, ou bien l'UNICEF, ou bien l'UNFP, ou bien le CICR intervenait pour nous aider à avoir un stock, pour nous aider à avoir des primes de risque et pour nous aider à avoir des médicaments. Donc, de ce côté-là, on peut essayer de voir venir pendant un certain temps. Mais ce ne sera pas long parce que là, on sait que les ports sont fermés et l'aéroport particulièrement est fermé. Donc, ce qui veut dire que là, on est en plein dans notre plan de contingence. Mais un plan de contingence, ce n'est pas quelque chose d'indéfini. Si effectivement l'aéroport ne s'ouvre pas, on va avoir des problèmes.
Merci beaucoup Jean-Philippe Lherbourg.
Le docteur Jean-Philippe Lherbourg, directeur de l'hôpital universitaire de la Paix à Port-au-Prince, joint par Vincent Souriot. Et puis cette information, Dany Laferrière, académicien et écrivain, né dans la capitale haïtienne. haïtienne et de nationalité canadienne, aura bientôt son visage sur des timbres postes au Canada, des timbres qui seront dévoilés ce mercredi à l'ouverture du Salon du Livre de Montréal. Quatre autres figures de la littérature franco-canadienne sont également concernées. Objectif, célébrer des plumes primées qui inspirent les gens au Canada et ailleurs.
RFI, as vozes do mundo.
Le Brésil, dans cette demi-heure et ce coup de tonnerre cette semaine. Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État, l'ancien président qui avait également pleinement conscience d'un projet d'assassinat de son successeur Lula en 2022. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans un rapport de la police fédérale rendu public hier soir. Un document accablant pour Jair Bolsonaro. À Rio de Janeiro, la correspondance de Sara Cozzolino.
Il s'agit de 884 pages de rapport minutieusement documentés dans lequel l'ancien président est mentionné plus de 500 fois. Jair Bolsonaro a planifié et pris part de façon directe et effective aux actes d'une organisation criminelle qui avait pour objectif un coup d'État. Le rapport de la police fédérale est sans équivoque et précise que le plan a échoué à cause d'un soutien insuffisant des principaux commandants de l'armée brésilienne. La demande d'inculpation de la police concerne également 36 autres personnes, notamment des militaires. C'est le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, qui a rendu public le rapport ce mardi. Il était d'ailleurs l'une des cibles, avec Lula et son vice-président Geraldo Alckmin, d'un projet d'assassinat en décembre 2022. L'opération Poignard vert et jaune a été révélée la semaine dernière alors que le Brésil accueillait le G20. Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé publiquement ce mardi, mais il se dit régulièrement victime de persécutions politiques. Il est déjà condamné à 8 ans d'inéligibilité. La décision d'engager des poursuites appartient désormais au procureur général. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
On poursuit en Amérique du Sud, en Argentine précisément, où Javier Milei garde le cap et poursuit son expérience ultralibérale à grande échelle. Un peu moins d'un an après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État veut à nouveau sortir la tronçonneuse. Il est déjà à l'origine de la suppression de 33 000 emplois publics. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Nemo.
Et Javier Milei veut aller encore plus loin pour l'année à venir.
Oui, Javier Milei, il n'est pas surnommé le Trump argentin pour rien, comme son futur homologue américain. Il aime les messages chocs de préférence partagés sur X, le réseau social du copain Elon Musk. Il a donc posté le message suivant. « Étant donné le paysage, je confirme que je vais continuer à faire marcher la tronçonneuse en 2025. » Puis en lettres capitales, « Vive la liberté, bordel !» Fin de citation. Et comme si ce message Nemo n'était pas assez clair, il est accompagné d'une photo d'une vraie tronçonneuse en or posée sur son bureau de la Maison Rose, la présidence de la République argentine.
Une communication politique certes singulière, mais la cure d'austérité imposée par Milei à l'Argentine est-elle bien sévère?
Oui, l'anarcho-capitaliste auto-revendiqué a coupé partout dans les emplois publics, dans les subventions à l'énergie, au logement, dans les financement aux provinces. Alors côté positif, les finances publiques sont revenues dans le vert pour la première fois depuis 16 ans. L'inflation, elle, est retombée à un niveau raisonnable. Côté face, le prix à payer est lourd, très lourd. Le pays s'enfonce dans la récession et la pauvreté, elle, explose. Elle touche désormais plus d'un Argentin sur deux. Peu importe, le docteur Milei est bien décidé à doubler la dose.
Nathanaël Vitran du service économie de Radio France Internationale. Il est 10h18 à Buenos Aires.
RFI, The World's Voices.
Un coup de fil à Washington, où il est 8h18. La capitale américaine est la Maison-Blanche, que quittera bientôt Joe Biden. Le président sortant a annoncé hier l'une de ses dernières décisions, vouloir rendre les traitements anti-obésité de nouvelle génération accessibles pour des millions d'Américains. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Envoyé spécial des RFI à Washington. Surpoids, obésité, des problèmes, Guillaume, de santé publique aux États-Unis.
Oui, selon les derniers chiffres du Centre de contrôle des maladies, la principale agence de santé publique aux États-Unis, entre 2021 et 2023, 40% des adultes américains étaient obèses. Et avec l'obésité viennent souvent d'autres maladies chroniques comme le diabète. Mais ce chiffre de 40% constitue une baisse par rapport à la précédente étude qui indiquait qu'en 2020, près de 42% des adultes américains étaient concernés par l'obésité. Les explications sont sans doute multiples, mais parmi elles, il y a sans doute l'utilisation croissante des médicaments contre le surpoids et l'obésité.
Et justement, c'est à ces médicaments que l'administration Biden veut élargir l'accès.
Oui, pour réduire les risques pour la santé liés à l'obésité et aux maladies qui l'accompagnent. L'administration propose donc que ces médicaments soient remboursés par les assurances de santé publiques, car oui, cela existe aux États-Unis, Medicare pour les plus de 65 ans et Medicaid pour les Américains les plus pauvres et handicapés. Ce n'était pas le cas jusque-là parce que l'obésité n'était pas considérée comme une maladie chronique au même titre que les autres par ces deux programmes.
Et Guillaume, il y a un premier problème et il est financier.
Et oui, parce que ces médicaments coûtent cher, et comme on le disait, l'obésité concerne de nombreux Américains. Il serait 7,5 millions à être concernés par cette décision. L'administration Biden estime le coût total à environ 36 milliards de dollars sur la prochaine décennie, mais d'autres entités comme le Bureau du budget du Congrès, considérées comme bipartisans, estiment que ces chiffres sont en dessous de la réalité.
Et l'autre problème, Guillaume, il est politique.
Oui, dans moins de 2 mois, l'administration Biden va laisser les clés à l'administration Trump 2, donc elle ne va pas être en mesure de mettre en place avant de s'en aller ce qui est pour l'instant une proposition. Et il est un peu difficile de savoir ce qu'en pense l'équipe Trump. Le choix du président élu pour le poste de ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., comme pour d'autres traitements médicaux ou pour les vaccins, n'a jamais caché sa méfiance contre les médicaments anti-obésité. Il prône plutôt un changement radical dans le mode d'alimentation. Et il est vrai que les aliments transformés aux États-Unis sont très renforcés en additifs gras et sucrés. En revanche, le docteur Mehmet Oz, pressenti pour gérer les agences Medicare et Medicaid, censé payer donc pour cette mesure, est un partisan de longue date de ces médicaments. Il va donc être intéressant de voir ce qui sera décidé.
Guillaume Nodin, en ligne de Washington pour RFI.
Vous écoutez RFI Midi.
C'est une crise énergétique qui a déjà coûté plus de 7 milliards de dollars. Voilà 2 mois que l'Équateur n'a pas connu une seule journée sans coupure d'électricité. En cause, une sécheresse exceptionnelle, certes, mais aussi et surtout le manque d'entretien des centrales existantes dans le pays. Des pluies timides et la vente d'électricité par la Colombie devraient permettre de passer de 14 à 7 heures de coupure par jour cette semaine. Notre correspondant sur place s'est rendu dans la région amazonienne pour évaluer les conséquences de cette crise avec, parfois, vous allez l'entendre, de bonnes surprises. Éric Sanson.
À 2 heures de Quito, la petite ville d'El Chaco est une exception en Équateur. Ici, pas de générateur bourdonnant toute la journée, ni d'odeur d'essence, ni de fumée nocive. Les coupures d'électricité ne sont pas au programme, se félicite le maire Oscar de la Cruz.
Nous sommes privilégiés et pas seulement parce que nous sommes tout proches de la grande centrale hydroélectrique de Coca-Codo-Sinclair. À Papayacta, il y a une petite centrale qui nous alimente, car sur notre territoire se trouvent les stations de pompage des oléoducs de Petro-Équador et de l'OCP. C'est par là que passe le pétrole du pays et l'approvisionnement en électricité y est indispensable.
À 3 heures du Chaco, la situation est bien différente à Lago Agrio, capitale de la province de Sucumbíos. Gabriela Aguilar y est l'avocate de la fondation Terre pour tous. Elle doit régulièrement se rendre au palais de justice pour aider des migrants colombiens ou vénézuéliens à obtenir leurs papiers. Et la crise énergétique ne lui facilite pas la tâche.
Si tu vas au parquet pour porter plainte et qu'il n'y a pas de lumière, ils ne te reçoivent pas. En Amazonie, de nombreuses institutions publiques n'ont pas de générateur et ne peuvent pas t'aider.
Sans électricité et donc sans Internet, le travail des juges et procureurs est souvent bloqué. Les audiences virtuelles ne peuvent pas se tenir, les dossiers ne sont pas actualisés et l'administration de la justice, déjà chaotique en temps normal, est de plus en plus lente. Et la situation se répète dans de nombreuses administrations publiques. Alexandra, par exemple, n'a toujours pas de carte d'identité équatorienne. Elle ne peut donc pas travailler pour subvenir aux besoins de son fils de 17 mois. Il est né d'un viol par un membre du groupe armé connu sous le nom des Commandos de la Frontière, très présent dans la province de Sucumbíos. Alexandra est toujours menacée et peine à envoyer de ses nouvelles à ses proches en Colombie.
J'ai besoin du Wi-Fi pour être en contact avec ma famille. Je peux rarement remettre du crédit sur mon téléphone, donc je dépends du Wi-Fi. Lors des coupures, on ne peut rien faire, juste s'asseoir, regarder l'autre dans le blanc des yeux et rien de plus.
Linda, réfugiée colombienne de 33 ans, survit avec son mari et leurs enfants en vendant les glaces qu'ils confectionnent chez eux. La différence entre une bonne et une mauvaise journée de vente se traduit souvent par bien manger ou se passer de viande.
Le manque d'électricité nous affecte beaucoup car on ne peut pas congeler nos glaces. Il y a quelques jours, on avait des coupures de 12 heures et on a perdu toutes nos glaces aux fruits. Il faut accepter le manque à gagner car on ne peut rien faire.
Il y aurait bien un moyen, mais Linda ne peut pas se le permettre. Acheter un petit générateur, l'un des rares secteurs de l'économie équatorienne en plein boom. Luis Chicaiza a dû en acheter un pour aider sa femme à garder ouvert la nuit son petit restaurant.
On a été obligé d'acheter un générateur 1000 dollars alors que le prix normal est de 700. Les vendeurs abusent, mais on n'a pas le choix car les générateurs sont rares.
Pour autant, Luis ne regrette pas son investissement qui lui permet de continuer à recevoir des clients, même si les conditions ne sont pas idéales.
Le bruit des générateurs est stressant, sans compter l'odeur et la pollution de l'environnement.
Faisant griller des boudins de sa fabrication sur une place publique de Lago Agrio, Ruby ne se distingue pas des autres vendeuses ambulantes qui l'entourent. Cette femme vit pourtant dans la peur. En Colombie, un groupe armé qu'elle ne veut pas identifier a menacé de recruter ses filles adolescentes. Son fils aîné s'est alors sacrifié. Il a rejoint le groupe et demandé à sa famille de partir en catastrophe. Elle se sait recherchée et les coupures d'électricité renforcent ses craintes.
J'ai peur de sortir la nuit et c'est encore pire quand il n'y a pas de lumière. Je m'enferme chez moi avec mon mari et mes filles et je ne sors que lorsqu'il faut travailler.
La réalité quotidienne d'un pays en pleine campagne électorale pour la présidentielle de l'an prochain, suspendue au retour des pluies et aux ventes d'électricité des centrales thermiques colombiennes. Éric Sanson, Lago Agrio. RFI.
8h25 en Équateur, l'application RFI Pure Radio est là pour réécouter le reportage.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des territoires français de l'océan Indien. Rebonjour Alex Léveillé.
Bonjour.
On prend la direction de la Martinique, où il est impossible de trouver une déchetterie ouverte.
Et oui, plusieurs d'entre elles sont fermées en cause des décharges sauvages qui empêchent les camions de passer ou tout simplement d'ouvrir les portes et les usagers, eux, sont à bout. Xavier Chevalier de Martinique, la première.
Les décharges sauvages se multiplient. La faute, entre autres, à des déchetteries pour la plupart fermées. Lucas, qui travaille dans le tourisme, est énervé. Le jeune homme a loué un camion pour la journée et fait un grand ménage. Il a plus de 500 kilos à jeter.
À chaque fois qu'on va à la déchetterie, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est ouvert déjà? Ok. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y aura une benne? Est-ce que les gens vont bien nous accueillir? On arrive, il y a toujours 10 mecs assis. Bon, ok, ils nous accueillent. Bon, ils font leur boulot quand même. Mais aujourd'hui, là, on est confronté à un problème récurrent en Martinique. Et il n'y a aucune solution. On nous aide d'aller à Sainte-Luce. Sainte-Luce, finalement, c'est barré. On nous aide d'aller au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est mort. On nous aide d'aller au François. François, c'est mort. Château-Bœuf, cette déchetterie-là ne prend jamais rien. Enfin bon, wow.
La déchetterie de Céron est temporairement. La faute à une montagne de déchets déversés devant le site. Au Robert et au Saint-Esprit, les agents sont présents, mais personne ne peut rentrer. Des encombrants sont présents sur la route du SMTVD, rendant difficile, presque impossible, la circulation des camions. Manuel Vadius, directeur.
Sur place des équipements, donc on voit un petit peu avec les différents services pour pouvoir mettre en œuvre les moyens pour pouvoir évacuer ces dépôts sauvages. Malheureusement, c'est quand même un peu déplorable qu'on arrive à ce point alors qu'il y a des sites qui sont ouverts et pour pouvoir justement traiter et valoriser les déchets.
La situation devrait s'améliorer, d'après le SMTVD, d'ici le début de la semaine prochaine. Mais aucun des usagers n'y croit.
Xavier Chevalier de Martinique, la première. Et il sera compliqué pour la collectivité territoriale de la Martinique de boucler le budget en 2025. La CTM n'aurait pas reçu les subventions qu'elle réclame à l'État. Et elle pourrait ainsi saisir la justice. Le conseiller exécutif en charge des finances et de la commande publique, Arnaud-René Couraille.
La rigueur budgétaire est nécessaire. C'est valable, je dirais, pour l'ensemble des collectivités de Martinique. Il faut s'y mettre. Regardez ce qui se passe au niveau de l'État. Aurions-nous toutes les recettes, tout ce que nous voulions recevoir de l'État? Pas sûr. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention parce que nous allons dans le mur. Nous continuons à faire des investissements. Il y aura de gros travaux de près de 30 millions de dépensés en 2025-2026 sur un pont qui va se faire à l'entrée de Mongouville-Saint. J'ai attribué les marchés la semaine dernière. Donc ça veut dire que les investissements auront lieu dans notre pays. Maintenant, il faut savoir juger à quel moment, comment faire, les sommes qui manquent à la collectivité. Si l'État ne nous aide pas, c'est comme pour l'eau, si l'État ne nous aide pas à couvrir ses dépenses obligatoires, particulièrement les dépenses sociales, nous aurons de plus en plus de difficultés, nous allons dans le mur. Quoi, le président dit, soit nous allons faire un procès à l'État pour nous verser la différence, monsieur l'État, sachez qu'il manque 150 millions.
Arnaud-René Couraille, conseiller exécutif en charge des finances et de la commande publique, était au micro de Bertrand Caruge de Martinique, la première. Merci à Bruno Dessomme pour la mise en onde et à Samuel Piqueur aussi. Excellente fin de journée à tous.
Le journal des Outre-mer, Alex Léveillé. Excellente journée, Alex. 14h29 ici à Paris. C'est la fin d'RFI Midi. Merci à Valentin Blanc à la réalisation, à Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Demain, vous retrouvez Claude
Clotilde Dumay pour une nouvelle édition d'RFI Midi. Dans 30 secondes sur RFI, de vive voix, merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde.
Le festival Quatre Chemins, le plus grand festival des arts vivants en Haïti, fête ses 21 ans du 25 novembre au 7 décembre à Port-au-Prince sur la thématique non-masque et mascarade pour défendre la jeunesse haïtienne. Au programme, création théâtrale et chorégraphique, projections, conférences et café poésie. Le festival Quatre Chemins du 25 novembre au 7 décembre. Plus d'informations sur festival4chemins.com en partenariat avec RFI.